Actu SF, les podcasts.
Je vous propose de commencer dès maintenant. Je vais devoir partir un peu plus tôt, 5 minutes avant, parce que j'ai un taxi qui m'attend. Donc je me permets de commencer une minute plus tôt. Alors bienvenue dans cette interro-surprise, l'amour de l'alchimie, l'alchimie des corps. Pour un thème aussi particulier, je vous propose aussi une façon de faire très étrange. Nous allons partager. Je ne vais pas vous faire un cours magistral. Je vais vous demander d'intervenir à plusieurs moments. Pour commencer, pourquoi on m'a demandé d'intervenir sur ce thème? J'ai écrit un roman qui s'appelle Cyberland, qui traite de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle s'interroge notamment sur les émotions humaines. Première question. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'importance des émotions dans notre vie de tous les jours? N'ayez pas peur.
Ben, ça sert pour exprimer par exemple la joie, qu'on est triste, on a un visage qui représente le...
Effectivement, c'est un moyen de communication. Quand on parle communication, on parle d'une partie du cerveau particulière qui n'est pas le néocortex. C'est quelle partie du cerveau ?
J'ai une chance sur trois, mais je vais dire le système limbique.
Parfait, vous avez gagné. Et c'est un cerveau qu'on a en commun avec tous les mammifères. C'est une forme de communication non-verbale. Pour bien comprendre le cerveau limbique, il faut s'intéresser au tout petit, au nouveau-né. Comment est-ce qu'un bébé communique ? Qui a des enfants ?
Ben, le bébé communique en pleurant, en rigolant de temps en temps.
Quand il pleure, est-ce que ça veut dire qu'il est triste? Ça peut vouloir dire qu'il a faim, qu'il est fatigué, qu'il y a quelque chose qui l'embête. Mais ce n'est pas, comme chez l'adulte, une représentation de la tristesse. Quand il est en colère, il peut pleurer. Les émotions aussi évoluent en fonction de notre âge, de la maturité de notre cerveau. Quand vous parlez, vous avez ce qu'on appelle un langage articulé, verbal, et un langage non-verbal. Le non-verbal, c'est quoi ? N'ayez pas peur. Le langage corporel, oui. Autre chose.
Le paraverbal.
Le paraverbal. Donc le langage corporel, ça peut être des gestes, ça peut être quoi au niveau du visage ? Les expressions. Ça aussi, c'est géré comment ? Vous avez une idée de ce qui gère le non-verbal ? C'est également effectivement une partie, le cerveau limbique. Et effectivement, vous avez dit, qui a dit inconscient ? Bravo. Effectivement, tout ce qui est du domaine du limbique, on ne le contrôle pas. On peut apprendre à gérer ses émotions, son stress, mais on ne le contrôle pas. Et dans Cyberland, l'intelligence artificielle veut comprendre les émotions des hommes parce qu'elle veut comprendre leurs motivations. Et parmi ces émotions qui ont une importance dans la motivation, elle veut s'intéresser à l'amour. Pour une intelligence artificielle, c'est un tout autre monde. Et toute la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, puisque comme on parle d'amour, on parle de partage, c'est est-ce qu'on peut modéliser une émotion comme l'amour ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on puisse modéliser votre affectivité et vous proposer le partenaire idéal ? Ou pire encore, est-ce qu'on peut imaginer faire de l'amour en pilule ? Pour commencer, on va parler...
Ah, pardon, vous avez posé la question. Je voulais vous faire remarquer enfin, quelque chose qui m'a un petit peu titillé depuis le début. C'est que vous mettez fort en avant le cerveau, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dans notre organisme qui sont les causes et qui se manifestent au qu'on fait. Bon, la deuxième chose tout de suite, là, avant de pouvoir modéliser l'amour, déjà, faudrait-il pouvoir le définir ?
Oui.
Donc là, bon courage.
Je ne vais
pas plus loin.
Je voulais venir parce qu'on parle d'émotion, on parle d'un grand sentiment. La différence entre une émotion et un sentiment, une émotion c'est quelque chose de furtif, un sentiment c'est quelque chose sur le long terme. On a l'impression qu'on partage tous la même expérience, mais en fait, c'est une expérience individuelle et chacun a sa forme d'amour, chacun a sa façon de l'exprimer. Et même au niveau de la chimie du cerveau, on verra qu'effectivement, il est question de neurotransmetteurs, de phéromones et d'hormones. Mais on n'est pas tous pareils. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Sur la question de la modélisation, excusez-moi, j'y reviens. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir envie d'une chose aussi horrible qui est de modéliser les émotions pour les comprendre. Où est le danger ? Est-ce que quelqu'un peut proposer une idée ?
Certaines personnes pourraient avoir envie pour éviter de souffrir. Envie de modéliser les émotions pour éviter de ressentir des émotions négatives.
Oui, c'est une première des choses. Les émotions négatives, elles ont un sens, on le verra, oui.
C'est aussi le risque qu'on caricature les émotions.
Oui.
Ce qui peut se voir un peu parfois avec les personnes autistes, à qui on va dire la tristesse c'est quand tu pleures, ah bah alors là, pourquoi tu souris et tu pleures ? Enfin, il y a un risque un peu de mettre dans des cases avec t'es triste, tu pleures, t'es comme ci, t'es comme ça, alors que c'est plus complexe.
C'est beaucoup plus complexe, oui.
Le risque, c'est de prendre le contrôle sur les autres, le filtre d'amour. Hein.
Parfait.
Quand vous demandez ce qui peut donner envie à un homme de faire des modèles, c'est que c'est ce que fait l'homme déjà, faire des modèles. Que ce soit l'amour, que ce soit la rotation des planètes, que ce soit les animaux, tout. On essaye de faire des modèles. Après, un modèle, c'est un outil.
Tant qu'on se contente effectivement de faire des recherches pour la connaissance, pour étendre notre connaissance, on peut l'admettre. Par contre, c'est ce qu'on fait de cette connaissance qui peut être plus problématique. Et effectivement, je ne sais plus qui l'a dit, effectivement, on peut avoir envie de se débarrasser de ces émotions négatives. Bon, on le fait déjà, hein, la pharmacie a déjà développé un tas d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. La question est de savoir, est-ce que ces émotions, même si au niveau de la société, elles ne sont pas forcément valorisées, elles ont un sens dans nos vies. Ensuite, effectivement, quand on parle de la diversité, la neurodiversité, est-ce que quelqu'un connaît ce mot ? C'est quoi la neurodiversité ? Je vous fais faire le travail à ma place.
C'est les différentes façons dont la la réflexion et la psyché fonctionnent chez différentes personnes. On parle notamment des neurotypiques qui sont les personnes considérées normales et des neuroatypiques qui vont regrouper les personnes autistes, d'autres, ce qu'on peut considérer comme des maladies, des choses comme ça.
Effectivement, la neurodiversité, c'est une différence de fonctionnement du cerveau. On fait la différence entre les neurotypiques, c'est-à-dire des gens sur lesquels on met l'étiquette normalité, là aussi, on peut en discuter, et les gens sur lesquels on met l'étiquette anormalité, et parmi les neurotypiques, le groupe le plus important, parmi les non-neurotypiques, le groupe le plus important, c'est celui des autistes. Pourquoi, quand on parle d'amour et de chimie du cerveau, on parle de neurodiversité ? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est toujours persuadés, à cause des neurones miroirs dans notre cerveau, que tout le monde est pareil. On se projette, par notre capacité d'empathie, dans l'autre. Et on a tendance à imaginer que nos réactions, en tant qu'êtres humains, sont pour tout le monde les mêmes. La neurodiversité, ça nous fait comprendre qu'en fait, par exemple, dans le cas d'un autiste, quand il est joyeux, il peut se mettre à faire comme ça. C'est sa façon d'exprimer la joie ou l'amour. Ou il peut se mettre à faire comme ça. C'est une expression des émotions par le corps. Nous, en tant qu'êtres sociaux, on nous a appris que les émotions s'exprimaient d'une certaine façon. La joie, on admet qu'on peut crier, on admet qu'on peut se regarder dans les yeux plus intensément, qu'on peut sourire, mais par contre, si on se met à faire comme ça, on sera hors normalité, donc on sera dans la neurodiversité. Pour en revenir à l'amour, à quoi ça sert l'amour ?
Il me semble qu'il y avait une théorie qui disait que l'amour, c'était ce qui permettait le rapprochement entre un homme et une femme de façon suffisante, un attachement pérenne qui servait à entourer la procréation. Un petit peu avant, le temps que la femme soit enceinte et le temps que l'homme soit un petit peu encore autour, tant que le bébé était tout petit. C'est pour ça que d'un point de vue biochimique, ça dure 2-3 ans. Et puis ensuite, à l'état naturel, l'homme retournait faire sa vie ailleurs. Puis la femme s'occupait du petit bébé. Voilà.
Vous l'avez dit de façon très froide, mais oui. Effectivement, l'amour, c'est un ciment. Donc, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a effectivement l'amour amoureux, dans le cadre de la reproduction, avec une part sexuelle. On parle de sexualité. Le but de cet amour-là, c'est le rapprochement des individus, le rapprochement des corps, la création d'un nouvel individu et la prise en charge de ce nouvel individu par les parents. Ça peut durer effectivement 3 ans, ça peut durer 7 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 30 ans. C'est aussi différent selon les personnes. Ça, c'est l'amour. Mais il y a un autre sentiment, une autre émotion qui ressemble à l'amour et qui est un des ciments de la société. Puisque quand on parle émotion, on parle aussi animaux sociaux, société. Quel autre type d'émotion fonde le vivre ensemble en dehors de l'amour pour la reproduction ?
Déjà, il y a tous les amours qui ne sont pas du couple, enfin l'amour filial, l'amour paternel, fraternel. Et puis il y a aussi toutes les. D'une façon un peu plus. Je ne sais pas si vous pensez à l'empathie, qui est peut-être une certaine forme d'amour au moins. On s'en approche, on essaie de comprendre l'autre et on essaie de le comprendre.
Effectivement, dans l'amour, nos sociétés On met l'accent pour comprendre l'amour sur l'amour dont le but est la reproduction. Après, l'amour, c'est des neurotransmetteurs, pardon du mot. Et parmi ces neurotransmetteurs, tous n'ont pas le même rôle. Si je vous dis dopamine, ça vous dit quoi ?
C'est pas quelque chose qu'on prend pour être content, ça, non ?
C'est... On peut en prendre pour être content. C'est un neurotransmetteur qui vient s'accrocher aux neurones de notre cerveau quand, effectivement, on a besoin d'énergie, on est excité, il faut faire des choses, et des choses qui ne sont pas stressantes, des choses constructives qui nous portent. Donc c'est un vecteur d'énergie et effectivement c'est la joie et c'est quelque chose qu'on sécrète quand on est plusieurs à avoir le même objectif, à pas trop rencontrer de problèmes. Il y a une question de motivation. Si je vous dis sérotonine, ça on en manque quand on est déprimé.
Sérotonine, c'est la joie ou le plaisir. Enfin, c'est une hormone qui est sécrétée, enfin, un neurotransmetteur qui est sécrété dans ces situations-là.
C'est sécrété effectivement dans la joie et le plaisir. Quel est son but ? C'est un peu étrange. Il aide à la concentration.
Est-ce que c'est pas lié aussi avec le phénomène de récompense, la sérotonine, pour se féliciter ou récompenser ?
C'est l'hormone du plaisir. Alors, quand on parle plaisir, on va mettre de côté, d'un côté le plaisir sexuel, d'autre côté le plaisir effectivement lié, la sensation de plaisir, de bonheur. Même si on verra que les neurotransmetteurs sont semblables après une question de quantité libérée dans le cerveau. Mais la sérotonine, quand on en manque, on est déprimé, on est fatigué. Et surtout, elle aide dans la relation amoureuse à se concentrer sur l'autre. L'autre devient le centre du monde. Il est notre récompense. Il est délivré, la sérotonine est délivrée quand on est en compagnie de l'autre. Et quand l'autre n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ? On a effectivement, dans le meilleur des cas, un sentiment de déprime. Soit on peut sécréter une autre hormone qu'on appelle, cette fois-ci c'est une hormone, pas un neurotransmetteur, le cortisol, et qui est l'hormone du stress. Un autre neurotransmetteur, l'ocytocine. Ça doit parler.
C'est l'hormone de l'attachement qui se manifeste quand, par exemple, on va faire des câlins ou des choses comme ça, ou un parent pour un enfant.
Alors, elle est libérée à deux occasions. À une première occasion, elle est libérée en très grande quantité. C'est lors de l'accouchement, après la délivrance. C'est effectivement le début, le prémisse de l'attachement à l'enfant. On a souvent des témoignages lors d'accouchement, quand ça se passe bien, de cet instant de pur bonheur, qui est le fait de croiser le regard de son enfant. Ça, c'est l'ocytocine. On en sécrète tous. On en sécrète aussi par le toucher. Quand on se réconforte, quand on se serre dans les bras, quand on se touche, le fait de toucher le corps fait sécréter de l'ocytocine. Donc du coup, si on est seul et qu'on a peu de contact affectif, physique, qu'est-ce qui se passe encore une fois ? On a cette sensation de déprime. Un dernier neurotransmetteur dont on parle souvent mais qu'on parle peu, dont on parle peu quand on parle d'amour, c'est la sérotonine dans le chocolat. L'adrénaline. C'est quoi l'adrénaline ?
C'est l'hormone du fight or flight qui accélère le cœur et qui prépare le corps au mouvement.
Oui, c'est l'hormone de l'action. L'hormone, on parle souvent, en littérature, on dit le suspense, les films pleins d'adrénaline. L'adrénaline, effectivement, c'est l'envie d'agir. C'est quelque chose qui nous tend. Elle intervient aussi dans l'amour et elle nous aide à quoi ? À franchir nos inhibitions, à nous tendre vers l'autre. Donc on a ces quatre neurotransmetteurs. Si on récapitule, on a donc dopamine, sérotonine, ocytocine, adrénaline. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous réconforter ou pas, mais ce n'est pas le but. On a des injustices. On a des injustices en fonction de l'âge, en fonction de la culture et en fonction de notre capital génétique. On n'est pas tous égaux face à la sérotonine, par exemple. Des gens en sécrètent plus que d'autres. Donc du coup, ils seront comment, ces gens ? Qui ont cette facilité par rapport à la sérotonine. Plus heureux. On disait, qui disait que c'était l'hormone de la récompense ? C'est vous. Du coup, si on réfléchit, ce sont des gens qui sont aussi plus... plus satisfaits, effectivement. Plus facilement satisfaits. Plus satisfaits d'eux-mêmes. C'est des gens qui peuvent être aussi plus facilement motivés, qui voient, comme on dit, le verre à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide. Ça, c'est des injustices génétiques, ou de l'ordre de la relation de notre petite enfance, ou culturellement aussi, on peut avoir des différences en fonction de ce que la société valorise. Pour l'ocytocine, c'est pareil. Il y a des gens pour qui l'ocytocine est sécrétée rapidement, donc qui vont s'attacher vite, et d'autres qui s'attacheront plus lentement ou plus difficilement. La dopamine également. Tous ces neurotransmetteurs, en fait, ne sont pas sécrétés de la même façon. Donc quand on disait modéliser l'amour au début, on comprend qu'il y a un problème. L'amour de qui ? Quel individu, quel cerveau on va modéliser, on va choisir pour dire ça, c'est l'amour. Et même sans parler neurobiologie ou chimie du cerveau, on est tous devant l'évidence qu'il y a différents types d'amour. On a ce qu'on appelle la passion, l'amour. L'amour filial, l'attachement, l'amitié, même par rapport à des camarades ou des collègues de travail, camarades d'école ou collègues de travail, qu'on ne définira pas comme des amis, on peut avoir une forme d'attachement, ils peuvent nous manquer. Donc on a une infinité, et là je vais employer un terme un peu étrange, on a 50 nuances d'amour, 50 nuances d'être reliés, de façon d'être reliés les uns aux autres. Ça, c'est pour, on va revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, je parlais de neurotypie et de neurodiversité. La neurotypie, la normalité, c'est 50 nuances. C'est une palette très large de formes d'attachement. Des attachements qui peuvent évoluer en fonction de l'âge, en fonction de la durée de la relation, en fonction des choses, des projets qu'on a en commun. C'est très subtil. Quand on sort de la neurotypie, en général, on va vers le moins. Dans le cas de l'autisme, combien de nuances on a ? Qui dit moins, qui dit plus ? On va faire un petit... Qui dit moins ? Qui dit plus ? qu'il n'ose pas se prononcer. Je vais vous dire, vous avez tous raison, parce qu'en fait, tout dépend. Dans la palette, il y a moins. C'est-à-dire qu'on parle souvent, quand on écoute un autiste, il va dire, moi j'ai 5 nuances de bof et 5 nuances de hard, dans le sens où il y a 5 émotions négatives et 5 émotions hyper fortes ou hyper faibles. L'intensité est plus importante dans l'intensité de l'émotion chez les autistes. Par contre, la palette est beaucoup moins large. L'intensité de l'émotion, l'émotion, ça sert à communiquer. On l'a dit, on a parlé du cerveau limbique, du bébé qui pleure quand il est triste ou en colère. C'est la façon de communiquer. Chez les neurotypiques, les émotions, elles nous servent à être en lien les uns les autres. Elles nous servent aussi à échanger des informations. Le cerveau limbique a cette capacité qu'a pas forcément le néocortex de traiter l'information très rapidement et souvent, devant une situation complexe, il va la traduire en émotion, pas forcément en analyse. Vous allez ressentir une joie ou un stress, ça va vous mettre en alerte et après le néocortex va analyser, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est pour votre fonctionnement interne. Et ensuite, cette émotion peut vous aider à communiquer. Si vous êtes stressé, votre comportement sera contagieux ou en tout cas mettra en alerte ceux qui sont autour de vous. C'est une communication instantanée. On parle d'émotions contagieuses. Ça, c'est pour les neurotypiques. Chez les non-neurotypiques, l'émotion peut être vécue, mais ne sert pas à la communication. Elle n'est pas contagieuse. Donc c'est toutes ces différences dans le sentiment. Et quand on parle d'amour, est-ce que l'amour est contagieux? Qui ose répondre à cette question hautement philosophique?
J'aurais tendance à penser que oui, puisque beaucoup de couples se forment lors de mariages, par exemple.
Tout à fait. C'est contagieux à plusieurs niveaux. C'est contagieux, effectivement, on tombe plus facilement amoureux dans un environnement où les gens sont amoureux, où les gens sont proches les uns des autres. Il y a une sécurité affective qui fait qu'à ce moment-là, on peut être réceptif à l'autre, dans le sentiment amoureux. Il y a aussi le fait que les gens qui nous aiment, comme on est par rapport aux gens qui nous aiment,
on les aime.
En tout cas, on est plus tenté de les aimer. Les gens qui ne nous aiment pas, on les aime pas. Enfin, en tout cas, normalement, on ne les aime pas. On peut des fois s'acharner un petit peu.
On essaye de creuser, de comprendre pourquoi on ne les aime pas. Après, on décide s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, une raison importante qui ne nous aime pas, là, on décide de ne pas aimer.
Tu as employé un terme important, tu as parlé de raison. Et effectivement, quand on parle d'amour et d'émotion, on a tendance à les opposer à la raison, alors que c'est un peu artificiel. Pendant très longtemps, on a cru que l'amour et les sentiments, c'était le cœur. C'est bien le cerveau, c'est bien un mécanisme cérébral, un mécanisme complexe. C'est le cerveau limbique, donc on a en commun avec tous les mammifères, mais le néocortex s'appuie sur le cerveau limbique pour la prise de décision. Donc en fonction des gens qu'on aime, on ne décide pas pareil, on n'agit pas pareil avec eux. Des gens qui nous sont indifférents, on agit d'une certaine façon, et des gens qu'on n'aime pas ou qu'on déteste, c'est un mot un peu fort, on agira d'une autre façon. Donc les émotions nous dirigent. plus que notre raison. Et elles sont liées. C'est lié.
Tout à l'heure, on a évoqué l'amour fraternel, paternel, mais aussi un amour des, par exemple, des objets. Par exemple, un collectionneur de timbres. On peut considérer les amoureux de ces timbres. Est-ce que on peut parler là d'amour? Moi, j'appelle ça amour matériel.
C'est qu'un des neurotransmetteurs qui intervient ici. On peut deviner lequel. C'est lequel, à votre avis, qui intervient chez les collectionneurs? La sérotonine, effectivement, l'hormone, le neurotransmetteur de la récompense. Chez le collectionneur, effectivement, il y a des émotions par rapport aux objets, et ces émotions, elles sont là pour... pas remplacer, mais disons pour combler, on parle souvent dans le cadre du collectionneur obsessionnel, de combler un vide affectif.
Justement, excusez-moi, justement c'est pour ça, c'est encore moi, c'est pour ça tout à l'heure quand vous étiez prêt, j'avais mentionné deux ou trois mots grecs, bon, c'était pas pour me la péter, mais c'était justement pour que le mot amour soit un peu moins ambigu, parce qu'en français on n'en a qu'un, mais en grec il y avait trois, il y avait Eros, Philia et Agapé. Et du coup, quand on parle d'amour, ça, déjà, chaque personne a des ressentis différents, mais en plus, ça recouvre encore des notions différentes. Il y a Eros, qui est l'amour plus charnel, oui, entre deux personnes. Il y a Agapé, qui est l'amour du prochain, mais de façon plus générale, ou désintéressée, etc. Il y a Philia, que nous recouperons plutôt sur amitié, qu'amitié qui a la même racine que amour, de toute façon. Mais déjà, ça permet de rendre les choses moins, oui, confuses en différenciant ces trois...
Oui, parfaitement. Et on a effectivement ce dont tu parlais. Je me permets de vous tutoyer. On peut parler d'un attachement. Là, c'est le système de récompense. On peut aller plus loin dans les amours un peu exotiques. Là, c'est les objets. Mais il y a des créatures dont le cerveau limbique, des créatures très empathiques qui nous entourent. Quand on a chez soi des... Voilà. Des animaux domestiques. Comment on communique avec un animal domestique?
C'est le système limbique, justement, qui fait qu'on va analyser leur mimique, leur gestuelle.
De la même manière qu'on communique avec les bébés, justement, aussi en montant dans les aigus, dans la voix, en faisant des grandes mimiques, etc. Des syllabes très accentuées. Et il est joli, nanana.
Il est mignon. Voilà. Oh, qu'il est mignon.
Comme un nouveau-né.
Et effectivement, on ne le fait pas. Donc, on a toujours l'air stupide quand on fait ça, mais on ne le fait pas pour une raison stupide. On fait ça parce que l'animal, il comprend au niveau limbique. Notre communication avec lui est au niveau limbique, et lui, il comprend au niveau limbique. C'est-à-dire qu'un animal qui vous agresse, il le fait parce qu'il a peur, pas forcément parce qu'il est en colère. Un animal qui vous colle, est sans arrêt derrière vous, il le fait parce qu'il veut quelque chose. Tout ça, c'est le cerveau limbique. Il y a une question à se poser sur l'attachement qu'on a vis-à-vis des humains, effectivement, mais il y a une question aussi à se poser sur l'attachement qu'on a pour les animaux, quand on sait que finalement, les animaux, comme les bébés tout petits, leur seul moyen de communiquer avec nous, c'est les émotions. On va quand même revenir un peu plus sur l'amour charnel. Là aussi, on a des différences selon les individus. On a des différences, la première, là on parle de sexualité, donc on a des différences sexuées. Là, on parle d'hormones sexuelles. Pour les hommes, c'est testostérone. Les femmes, œstrogène, progestérone. Si on fait quelque chose d'un peu caricatural, on va dire que chez la femme, l'œstrogène, c'est l'hormone de la femme, et la progestérone, c'est l'hormone de la mère. On est chaque mois, en tant que femme, un peu mère. Ça, c'est pour le système reproductif. Et ces hormones, elles sont aussi liées au niveau limbique, aux neurotransmetteurs dont on parlait. C'est-à-dire qu'en fonction de nos pics hormonaux, les femmes, on en a un par mois, les hommes, vous en avez plusieurs par jour. La chimie de notre cerveau va s'en trouver modifiée. Le matin, on peut être plus guilleret. Les femmes, en général, quand on est sur le pic d'œstrogène, qu'est-ce qui se passe, les filles ? On n'ose plus, hein, quand on parle de sexualité. On est plus énergique, on a plus envie d'aller vers les autres, y compris les hommes. On est plus ouverte aux autres, en pic d'œstrogène. Sur le pic de progestérone peu avant les règles, qu'est-ce qui se passe ? Toujours les filles. Hors syndrome prémenstruel, parce que là on est vraiment dans un truc terrible. L'inverse. On a moins envie d'aller vers les autres. On n'est plus dans un sentiment de protection. Pour les hommes, c'est exactement la même chose, mais c'est plus rapproché et moins, du coup, moins exacerbé. Mais sur un pic de testostérone, un homme est beaucoup plus ouvert, plus combatif, a plus envie d'agir que quand il est en déficit, où là, il va être plus fatigué, moins envie d'aller vers l'autre. Donc, les hormones sexuelles ont ainsi aussi un rôle dans notre comportement et un rôle sur notre affectivité. Elles ont le rôle de créer des individus autres que nous, par la reproduction sexuée. Elles ont aussi un rôle dans notre ressenti, dans comment on se sent chaque jour. Si on imaginait, on va faire un peu de design fiction, si on imaginait qu'on puisse créer une pilule qui nous rende amoureux fous de n'importe qui. Techniquement, c'est pas possible, mais ça le sera peut-être un jour. Et en fonction de notre cerveau, un certain cocktail d'ingrédients pourrait nous rendre, si on n'a pas les bons neurotransmetteurs, complètement fous. Votre façon d'être amoureux à vous pourrait ne pas correspondre du tout pour la chimie cérébrale de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas ? Ça vous paraît ? Je vois que vous avez une... Vous avez des questions sur cette partie-là ? Ça se rapproche à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le sentiment amoureux n'est pas modélisable dans la mesure où il est différent pour chacun. Et la chimie de nos cerveaux est différente. Et ce qu'on ressent...
Excusez-moi. Ah. Oui, est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement de juste pousser les curseurs jusqu'à arriver au bon cocktail pour chaque personne ?
Oui, voilà, c'était ma question, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait pas contrôler juste le niveau d'hormones de manière à ce que, enfin, comme on peut faire quand on a des dérèglements hormonaux, en fait.
C'est une bonne question, parce qu'effectivement, si on parle de dérèglements hormonaux, si on parle d'hormones sexuelles, il suffit de prendre des hormones de synthèse ou des hormones additionnelles et on règle le problème. Sur les neurotransmetteurs, on a une difficulté, c'est que c'est pas parce qu'on injecte plus de substances que le cerveau, il est capable de les assimiler.
En fait, on a parlé de modèles, mais on peut peut-être simplement considérer qu'on a 4 paramètres par individu, et il suffit de jouer sur cet individu, sur ces 4 paramètres. Peut-être que, je vais dire des chiffres au pif, mais peut-être que je fonctionne entre 40% et 60% d'ocytocine. Quand mettre moins, ça marchera pas. En mettre plus, ça marchera pas. Et puis, on peut jouer dans cette curseur-là. Peut-être qu'il y a un modèle qu'on peut faire, mais par individu.
Il faudrait effectivement avoir un traitement. On parle de traitement parce qu'on parle peut-être de la dépression, des traitements qui sont beaucoup plus individualisés. Admettons que vous souhaitiez tomber amoureux parce que c'est nécessaire à un instant de votre vie pour faire un enfant, parce que là on est vraiment dans la science-fiction, hein. On ne part pas de la rencontre et de la conception de l'enfant, on part de la pilule, hein. On commence par dire, on va prendre une pilule pour tomber amoureux de la personne qui semble peut-être génétiquement la plus compatible avec nous, pour faire un enfant. La pilule, il faudra qu'elle soit faite pour vous. Une paire de lunettes très 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 compliquée, oui. Donc c'est, on se rend compte de l'individualité et de nos différences à chacun.
Là, on a un peu l'impression qu'on est esclave de nos émotions, enfin par le biais de nos hormones. Mais quand, par exemple, quand on est dans une relation depuis très longtemps avec quelqu'un, il y a aussi tout un tas d'habitudes et de choses qu'on met en place qui vont influer peut-être sur nos hormones. Et du coup, on peut aussi peut-être soi-même agir sur la façon dont on aime l'autre.
Oui. Sur l'une des effectivement des points que je voulais aborder, c'est est-ce qu'on a un contrôle sur la façon dont on aime? Est-ce qu'on a un contrôle sur... est-ce que l'amour nous donne un contrôle sur l'autre? C'est des questions qui sont effectivement importantes. On a un contrôle sur la façon dont on aime.
J'avais justement une question, c'était de se demander si on peut justement agir sur aussi les neurotransmetteurs pour les habituer. Puisque je sais que, par exemple, sur ça doit être le cortisol, à un moment, on peut rééduquer le cerveau quand on a des problèmes de vraiment de sécrétion, en fait, des taux. Le cerveau, à un moment, on va le réhabituer à avoir des taux plus ou moins normaux et il y a un temps d'adaptation. Donc je me demande si c'est pas possible aussi sur les autres hormones, en fait.
Alors le cortisol est une hormone un peu particulière. C'est pour ceux qui... Bon, je rappelle que c'est quand même l'hormone du stress. Et que, à la différence d'autres hormones, au lieu de se calmer, on peut être amené à sécréter de plus en plus de cortisol. Le stress devient ce qu'on appelle endémique. On peut plus sortir de la situation stressante, même si le stresseur n'est plus là. C'est une espèce de cercle vicieux. Il arrive un moment où, à l'extrême, le cerveau met en place tout seul un blocage. Il se coupe de l'amygdale. Il y a quelque chose qui est au milieu du cerveau et qui sécrète le cortisol. Donc il y a ce qu'on appelle une soupape de sécurité. Ça, c'est pour le stress. Pour les autres émotions, pas forcément. On ne peut pas reproduire ce qu'on fait sur le stress avec les antidépresseurs ou les anxiolytiques qui combattent l'angoisse sur d'autres émotions. Si on prend la sérotonine, qui est l'hormone, le neurotransmetteur qu'on associe au bonheur, même si c'est un peu artificiel, un peu simplifié, on peut être amené à en sécréter quand on est amoureux, on peut être amené à en sécréter quand on est sur un nouveau métier qui nous rend heureux, on peut être amené à en sécréter devant une œuvre d'art. On peut être amené à en sécréter quand on fait autre chose, quand on fait l'amour, ou quand on fait aussi du sport. Et on n'en sécrète pas forcément tous au même niveau, et peut-être que le taux de sécrétion d'une personne viendrait trop troubler le fonctionnement cérébral d'une autre personne.
Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait avoir un contrôle sur la façon dont on aime. Est-ce que vous pourriez développer?
Quand on commence à s'intéresser à la chimie du cerveau, aux neurotransmetteurs, on commence à comprendre quand ils sont sécrétés dans le cerveau. On a cette première analyse qui est notre analyse personnelle, c'est-à-dire s'écouter. Derrière le terme s'écouter, c'est écouter ses émotions. Le circuit des récompenses chez certaines personnes est trop sensible. Donc on va toujours chercher la récompense. Est-ce qu'on peut apprendre à dire non? Ça, c'est déjà dans l'optique de sur sa façon d'aimer. On n'est pas différent en amour par rapport à nos autres fonctionnements sociaux. Il y a des différences, quelques différences, mais c'est un fonctionnement global. Ça, c'est pour la sérotonine. Mais si on s'écoute, par exemple, quand si je prends l'adrénaline, ce qui nous met tout de suite en marche, ça peut être différent au niveau de ce qui nous met en marche. Par contre, quand on est en marche, on est à peu près tous dans la même dynamique. Ça aussi, c'est se comprendre soi pour après comprendre l'autre. Si je comprends moi ce qui me motive, ce qui me met en marche, en regardant l'autre, je peux comprendre ce qui le motive, ce qui le met en marche. Non ? Ça demande effectivement du travail. Mais là, on parle de quelque chose de particulier, ça s'appelle quoi ? Voilà. On a employé le grand mot, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure. Vous étiez un peu en avance sur ce que j'avais prévu. Quand on parle d'amour, on parle aussi d'empathie. L'amour, c'est un sentiment qu'on ressent soi. C'est un sentiment qu'on ressent à deux. Et c'est une dynamique qui nous porte. L'empathie, c'est ce qui nous permet, premièrement, de nous adapter au comportement de l'autre. Mais c'est aussi ce qui nous permet de comprendre l'autre. Il y a deux formes d'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie viscérale. C'est quoi l'empathie viscérale instinctive ?
C'est justement la lecture du langage corporel et la façon dont notre cerveau va interpréter la réponse de la personne en face et la traduire en émotion.
Alors, j'aime pas dire non, mais je vais vous dire non, c'est pas tout à fait ça. L'empathie viscérale, c'est la contagion émotionnelle. Elle est présente chez les autistes. C'est-à-dire que vous rentrez dans une pièce comme celle-ci, là tout le monde est posé, relativement calme, on parle d'amour dans toutes ses formes. Il n'y a pas de quelque chose de tendu, il n'y a rien qui vibre et qui peut être contagieux, mais de façon négative. L'empathie viscérale ou l'empathie instinctive, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les troupeaux d'animaux. Un danger, même celui qui ne l'a pas perçu, ça se propage instantanément. Chez les autistes, on se rend compte qu'il y a une difficulté à communiquer, mais il n'y a pas une difficulté du tout à percevoir l'ambiance émotionnelle. Ça, c'est viscéral. C'est difficile parce que, par contre, c'est pas connecté au cerveau. Il n'y a pas capacité à analyser. On est dans l'action. Un autiste qui a peur, il peut se taper la tête contre les murs. Parce qu'il n'a pas la capacité à analyser cette émotion. L'empathie cognitive, elle est la capacité à analyser. Vous ressentez quelque chose, ça vous met en alerte. Votre capacité cognitive, votre capacité de réflexion se sert de cette information. Alors, c'est un terme horrible que de parler d'une émotion sous forme d'information. Je suis d'accord, on a l'impression de parler langage machine, et on n'est pas des machines. Mais c'est quand même une information que le cerveau va traiter, et si c'est une émotion négative, il va commencer à vouloir régler le problème. Si c'est une émotion positive, il va aussi l'analyser, et peut-être qu'il va vouloir comprendre comment faire que l'expérience se passe à nouveau. La différence entre l'empathie instinctive et l'empathie cognitive, c'est en fait l'intelligence. On peut avoir, en général, on a les deux. On a chacun un peu d'empathie instinctive. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti, en rentrant dans une pièce, l'information émotionnelle qui s'y trouve ? Levez la main, n'ayez pas peur. Ceux qui ne le ressentent pas, c'est pas forcément que c'est mal. Et on a tous une partie d'empathie cognitive. L'empathie cognitive fonctionne sur l'empathie instinctive. Sauf deux cas, là je vais employer des termes techniques, c'est simplement une information que je donne, vous la prenez pas. Chez l'autiste, on dit qu'il est zéro moins au niveau empathique, parce qu'il a que l'empathie instinctive, donc il n'est pas capable d'analyser l'émotion pour la structurer et en faire une élaborer en stratégie. À l'extrême inverse, on a la psychopathie, qui est aussi non neurotypique, où là on n'a que l'empathie cognitive sans socle émotionnel. On est dans la pathologie. Chez un neurotypique, il y a aussi des choses dont il faut se rendre compte, c'est que l'information peut être traitée tellement vite par le cerveau, l'information émotionnelle, qu'il peut se passer quoi ? Qu'on ne ressente pas, forcément. Si on a un ressenti qui dure longtemps, c'est que le cerveau continue à envoyer, à solliciter le neurotransmetteur dans une, parce qu'on n'a pas la solution. Donc du coup, on parle de quoi ? Là, on parle d'amour, on parle de relationnel, mais on a un mot générique pour ça. Ça s'appelle l'intelligence. Tous ensemble, émotionnel.
Excusez-moi, j'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que des polluants extérieurs peuvent affecter tous ces comportements émotionnels ?
Vous posez une question qui est très 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 intéressante. Effectivement, on parle souvent de l'environnement, de la pollution environnementale. Elle peut agir de façon directe déjà sur nos hormones sexuelles et elle peut agir sur nos neurotransmetteurs en incapacitant certains de nos neurotransmetteurs. C'est-à-dire que dans le cas de qui fume, je ne sais pas pour vous, parce que moi, je ne vais pas vous juger. Hein. quel est le circuit que vous activez quand vous fumez ? Sérotonine. Quand vous arrêtez de fumer, qui a arrêté de fumer ? Qu'est-ce qui se passe ? Stress. Un fumeur qui ne fume plus est extrêmement chiant, oui, effectivement. Et surtout, il y a quoi ? Il y a une sensation de vide. On ne sait plus ce qu'on va faire de sa vie. On se dit, mais qu'est-ce que je faisais avant qui fait que j'avais un sens à ma vie et que je n'ai plus ? C'est quand même pas juste la cigarette. C'est pas juste la cigarette, c'est la sérotonine. Qui nous donne cette impression d'être ancré dans l'instant, d'être sûr de soi, d'exister en relation avec l'autre. Tout ça, c'est le circuit de la récompense.
Je voudrais savoir, les gens qui ne croient pas de l'amour, est-ce que c'est par rapport au cerveau ou il y a d'autres...
Alors, l'amour aussi, là on a parlé de chimie, mais l'amour, il y a aussi un contexte culturel. Là on parlait biologie, il y a des cultures où ce qui nous on considère comme l'amour, c'est un peu différent. Il y a des gens... Alors, je me méfie toujours parce que j'ai toujours peur de comment on interprète. Oui, il y a des gens qui sont incapables d'aimer. Mais qui sont capables d'autre chose. Le fait de ne pas être... Le fait d'avoir un cerveau qui n'est pas apte à recevoir le bon cocktail de neurotransmetteurs, on va dire comme ça, ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ne veut pas dire que vous ne formerez pas de couple, ne veut pas dire que vous restez 40 ans avec la même personne. Là aussi, il y a nos émotions nous dirigent, mais en fonction du sens qu'on y accorde, il faut bien se comprendre que si, par exemple, vous êtes passionnel, qui est dans la passion facilement, non, on n'ose pas répondre, si vous êtes passionnel, ça veut dire que vous avez à un moment donné un cocktail intense. Ça dure 3, 4, 5, 6 ans, mais ça ne durera jamais 40 ans, par contre. Donc vous avez le moment où vous passez sur un autre cocktail, qui est un peu moins bon, un peu moins savoureux. Hein, on va comparer, vous êtes au bar, vous prenez votre boisson préférée, et juste après, il faut prendre un truc bon, qui n'est pas mauvais, mais qui n'a pas forcément, pour vous, le même attrait gustatif. Il peut y avoir un sentiment de perte de quelque chose. Au moment où la relation change. On dit la relation change, mais en fait, c'est la chimie du cerveau qui change. Ça peut fonctionner si on est avec quelqu'un qui est sur la même... dont l'émotion, le cocktail émotionnel se transforme au même moment. On va dire que c'est entre 3 et 7 ans, la passion. Pour chez les passionnels. Si ça ne se transforme pas au même moment, on peut avoir des difficultés relationnelles. Si ça se transforme au même moment, on appelle ça au contraire une forme d'harmonie. Vous voyez jusqu'où ça va quand même dans la dynamique de la relation à l'autre. Au bout d'un certain nombre d'années, on parle souvent plus, quand on imagine les vieux couples, excusez-moi de ce terme, les vieux couples, des gens qui ont vécu 50 ans ensemble, quand on leur parle, ils sont comment ? Voilà, par rapport à l'autre, ils se sentent comment ? Et comment il qualifie l'autre ? Est-ce que quelqu'un a autour de soi des très vieux couples, des gens âgés qui sont ensemble depuis très longtemps ?
Ils se sentent complices ?
Complices, oui. Il y a effectivement la difficulté à vivre sans l'autre. Qu'est-ce que ça rappelle comme relation ? Une relation fraternelle. La relation au sein des familles du frère et de la sœur, quand sur des fonctionnements d'enfants qui partagent tout. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose dont on se rend compte. L'amour-passion, ça ne dure pas 50 ans. Mais est-ce que c'est un problème ? Et la passion, des fois, ça n'existe pas chez certaines personnes et ça existe chez d'autres. On peut très bien être passionnel soi-même et avec quelqu'un qui est plus... je sais pas quel terme employer pour vexer personne, mais on va dire qui... plus tranquille au niveau émotionnel. On n'est pas obligé d'être forcément tous ensemble. Ce qu'il y a par contre, c'est comprendre ces différences et les accepter. Pas juger la qualité de l'amour. Parce que dans nos sociétés, effectivement, on est souvent jugé sur notre intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire intensité de l'émotion. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? Savoir gérer ses émotions et surtout savoir les comprendre. Parce que pour les gérer, il faut les comprendre. Savoir comprendre ses propres émotions, d'abord commencer par les identifier, c'est pas évident quand on a 50 nuances. On me fait. 50 nuances, c'est pas évident d'identifier son émotion. Donc commencer par les identifier et après les comprendre, ça veut dire les comprendre, c'est dans quel contexte cette émotion émerge, pourquoi elle est présente à cet instant, et qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse ? Est-ce que c'est de l'action ? Est-ce que c'est changer mon comportement ? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et du coup, une fois qu'on se comprend soi, on peut être amené à comprendre les autres, et principalement à les comprendre dans toute leur diversité. Je vais terminer sur ce mot diversité, parce qu'en amour, c'est aussi, et principalement, la tolérance. Merci à tous.